J'accueille mes deux chroniqueuses, Aya, Jennifer Ando. Bonjour Aya. Et coucou. Et Jennifer, Anaïs Sabourin, bien sûr, qui sera là aussi. Tu vas nous parler, en fait, dans un deuxième temps, tu vas nous parler d'un sujet, en fait, fort intéressant, à savoir, bien sûr, un sujet qui te concerne. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un handicap, finalement?
Exactement.
Alors, vraiment, ça, ce sera intéressant. Et puis, toi, de ton côté, Aya, on va parler, effectivement, de toutes ces questions qui, en fait, ces questions bêtes, entre guillemets, là, auxquelles on est confronté quand on est quand on est une jeune immigrante. Alors, que
Oui.
ce soit à l'école ou ailleurs, parce qu'évidemment, c'est partout. On a toujours des idées. On est étonné, je pense même, des questions qu'on nous pose quand on est originaire de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. Finalement, les gens ont des idées préconçues. Puis, évidemment, c'est sûr que, surtout quand les gens ont. Ben, les jeunes particulièrement peuvent avoir, par méconnaissance, peuvent poser des questions, mais pas que les jeunes aussi, finalement. Il y a des
C'est pas que des
professeurs.
jeunes.
Oui, c'est ça. Alors, d'une part, je voulais juste oui, juste avant d'amorcer vos chroniques, juste dire que on a d'autres beaux festivals, effectivement, du côté, on a parlé du festival Frima. On en a de beaux qui s'en viennent aussi, Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue, du 26 septembre au 1er octobre. Il y a eu le festival d'humour, bien sûr, on en a parlé, mais il y a le festival de musique trad aussi de Val-d'Or, du 1er au 5 novembre. Alors, évidemment, on est très actifs de ce côté-là. OK. Alors, Aya, parle-nous de toutes ces questions bêtes que tu as, enfin, auxquelles tu as peut-être toi-même été confrontée.
Oui, c'est vraiment des questions auxquelles j'ai été confrontée
Bon.
parce que comme on le dit dans le système québécois, quand je suis arrivée dans le système scolaire québécois, les professeurs, ils disent le plus souvent aux élèves, il n'y a pas de questions bêtes, posez-les, je vais vous répondre. Mais
C'est
c'est
vrai.
vraiment dans le système scolaire que tout ça peut vraiment marcher parce que dans un autre contexte, moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, les professeurs, il fallait vraiment tourner 7 fois ou même 10 fois la langue avant de poser une question parce que tu voulais pas paraître stupide aux yeux des autres élèves. Puis
Ah,
ici, je pense que
d'accord.
tout le monde, ben, pose comme il veut, là. Puis.
Oui, c'est ça. Donc, dans ton pays, je veux dire, on vous disait déjà de faire
Oui,
attention.
faire
Et
cette
puis, ben
attention.
voilà. Mais ici, tu as remarqué qu'il y avait une certaine. Bon, on ne s'était pas appliqué, ça, de tourner. On dit 7 fois la langue oui, dans notre bouche, là, avant de poser une question, avant de parler. Ben, c'est ça. C'est pas toujours appliqué.
Oui, c'est ça. Donc, moi, par exemple, j'ai fait une catégorie de questions gênantes que j'ai été confrontée. Donc, là, il faut comprendre le contexte déjà. Donc, je discute avec une personne, puis je lui dis déjà que ma ville natale où j'ai habité en Côte d'Ivoire, c'est la capitale. J'ai habité dans la capitale. Donc, c'est vraiment une métropole. Là, c'est grand.
C'est grand, c'est une ville,
C'est comme
oui,
Montréal. Donc,
exact.
l'électrification, tout y est. Et la question que les gens m'ont posée, c'est est-ce que tu vivais dans une case? Les cases, c'est des huttes, là,
Des petites huttes, exactement, comme on
dans
voit là
une
dans
case.
certains documentaires,
Oui,
oui.
oui. Puis je suis comme, ben non. Tu
Ben non,
sais,
on
je viens
est en
tout juste
milieu
de
urbain, c'est
dire que
ça, de
c'est un
grandes villes,
milieu
c'est
urbain.
fou.
Donc, vraiment, et même dans les villages, c'est pas des maisons, c'est pas des cases qui sont. Les maisons sont vraiment comme faites en ciment, en béton. Donc, c'est. Cette idée-là, je ne sais pas vraiment où ils l'ont pris parce que même moi, je suis allée une fois chez ma grand-mère au village, puis pour moi, c'était totalement encore comme une ville, là, sauf
C'est
que
une sorte de
c'était.
banlieue,
Oui,
finalement, équivalente,
c'était.
bon,
C'est
avec des
ça.
maisons peut-être différentes des nôtres, mais
Oui,
qu'importe,
oui.
ça n'a pas d'importance, oui.
Donc, pour moi, j'ai répondu. Il y a des moments où je répondais vraiment comme je vais donner la réponse. Puis finalement, ils me sortent encore une autre affaire. Est-ce que vous vous baladez nu en Côte d'Ivoire?
Oh, OK. Vraiment, c'est sérieux. C'est fou, hein, parce que là, vraiment, tu nous dis ça, puis c'est vraiment des questions
Oui, c'est
qui
des
t'ont été
questions qui étaient
posées.
posées.
Ah là
Et je suis
là.
comme, ben pourquoi tu poses cette question-là? Je veux comprendre. Puis lui, cette personne-là, c'est son. Sa seule idée de l'Afrique, c'est lorsqu'il a regardé Kirikou.
Ah, OK,
Donc, c'est
je
dans
vois.
Kirikou,
Oh là
comment
là, on part de
c'était?
loin, oui.
On parle de loin, là. Je suis comme, ben non, on se baladait pas nu en Côte d'Ivoire. Une autre question. Avez-vous des voitures chez vous? En mon contexte, je viens de te dire que c'est une métropole, que. Ouais, C'est pareil comme Montréal. les gens ont un peu de difficulté des fois avec la logique des Oui, choses, là. c'est ça. Donc, moi, je commence vraiment à être troublée quand on me pose des questions vraiment un petit peu bizarres, surtout que le contexte est là et que je donne les caractéristiques de mon pays.
Ouais.
Et comment tu fais pour aller à l'école? Je fais comme toutes les autres
Comme
personnes,
tous
comme
les jeunes,
toi.
oui,
Comment tu
bien
fais pour
sûr.
aller à l'école? la même manière. Là.
Mais et puis là, tu me dis que c'est pas que des jeunes, on peut comprendre que des fois des jeunes, ben, parce qu'ils ont pas tout le, ils ont pas nécessairement tout le bagage là, c'est-à-dire que par méconnaissance, mais c'est pas nécessairement le cas.
Non, ça peut être
des adultes aussi.
Ça peut être des adultes. L'adulte, j'ai été déjà posé la question. Avez-vous internet chez vous ou avez-vous de l'électricité?
Ah mon Dieu. Ouais.
Mais oui, il faut savoir que la Côte d'Ivoire c'est le troisième plus grand système électrique en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement ivoirien, il travaille en ce moment à faire du pays une hub régionale d'électricité. Et en même temps, ils ont la capacité de répondre à ses besoins à lui-même, donc les besoins de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il va exporter le courant.
C'est ça. Donc, une espèce de plaque tournante où là, vraiment, l'électricité est concentrée et repart ailleurs, finalement, est exportée.
Oui, c'est ça. Donc, on a le pouvoir de faire ça. Donc, c'est pas vraiment comme un pays qui a pas les moyens ou qui n'a pas d'électricité. L'Internet, on a ça. C'est juste que c'est différent comme d'ici. Si on ne paye pas un forfait par mois, des fois, tu peux le payer par jour, puis ça te revient un petit peu cher, mais il y a ça. Donc, on a tout ça. C'est pas... faut pas juste regarder les documentaires de National Geographic qui vont vous montrer la pauvreté, la famine ou des affaires. Oui, il y a ça, mais il faut voir aussi qu'il y a un beau côté parce que moi, je regarde souvent des vidéos sur YouTube où il y a des commentaires qui ont vraiment des idées préconçues qui sont là.
C'est ça.
T'arrives pas à croire qu'une personne, il a vraiment cette idée-là de l'Afrique. Lui, pour lui, ben, c'est juste des cases. C'est juste genre du sable là-bas, il y a rien.
Ouais, vous marchez nu-pieds.
On marche nu-pieds.
Ou pieds nus, enfin, ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Sinon, il y a plusieurs pays qui ont vraiment beaucoup de
d'idées préconçues.
Ben, non, je veux dire, les pays de l'Afrique, ils ont vraiment
développé comme ici. Là.
Oui, c'est vraiment développé comme le Nigeria, il est riche en pétrole. C'est l'un des pays de l'Afrique qui est vraiment riche en pétrole. Le Ghana, qui tient son économie des ressources telles que le bauxite, l'aluminium et les productions de cacao. Et aussi la Tanzanie qui est le premier pays de l'Afrique de l'Est à fabriquer des câbles à fibre optique. Mmh. Au niveau continental, il est le troisième. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui, lui, il tient sa recherche de l'agriculture, le premier producteur de cacao et de noix de cajou. Donc, même si des personnes ne voient pas tout ça, mais il y a des grandes avancées technologiques aussi en Afrique. Puis genre, on ne le montre pas vraiment parce que tout le monde regarde les documentaires de National Geographic ou c'est juste ça qui montre. Donc,
ben, je comprends.
Tu peux juste faire une recherche Google puis voir.
Il faut éliminer toutes ces images. Parfois, c'est très, très, très belles images. Néanmoins, oui, on parlait de National Geographic, mais enfin, c'est parfois, on nous montre des endroits un peu éloignés, vraiment, des endroits où à peu près déserts. Bien sûr, il peut y avoir des gens qui y vivent, mais alors de façon rudimentaire, mais c'est comme partout dans le monde.
Oui, c'est
même ici, on peut aller, c'est sûr, si on va dans l'idée de ma cabane au Canada, tu sais, c'est un peu le même principe là, pour les Européens, les Français, qui pensent qu'on vit, c'est ça, et qu'on vivait, que les Autochtones vivaient sous des tipis, enfin, voilà. Alors, ben écoute, on s'arrête le temps d'une pause, et puis je reviens avec vous, Aya, Jennifer, et puis Anaïs, tu nous parleras, toi, Anaïs, évidemment, de ton sujet. Après la pause, on revient. Restez là.
Vous écoutez Aime l'été.
Et là, c'est le temps de parler à Anaïs. Oui, c'est ça, notre autre chroniqueuse recherchiste, enfin, qui, les deux, d'ailleurs, qui sont toujours à notre micro le jeudi. Elles se partagent, effectivement, une chronique. Et puis, voilà, on parle avec Anaïs, cette fois, de ce qu'est exactement qu'être handicapé. Enfin, c'est une question qui vaut la peine, qui vaut la peine d'être répondu correctement, enfin, surtout par quelqu'un qui est en fait en situation de handicap comme toi, en fauteuil roulant. Mais bon, comme on a toujours dit, c'est pas ça qui vous définit de toute évidence. Hein. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Évidemment, la vie des personnes handicapées qui est souvent parsemée d'obstacles. Mais bon, alors, je te lance la question. Qu'est-ce que c'est exactement qu'avoir un handicap?
Oui, bien, en fait, comme Chantal, tu l'as dit, c'est une vie qui est parsemée d'obstacles. Oui, je pense que ça, on ne peut pas le nier. Ça fait partie de notre vie quand on a un handicap. Peu importe ce qu'on fait, je pense qu'il va y avoir des obstacles dans notre quotidien. Est-ce que ces obstacles-là sont insurmontables? Pas nécessairement. Parfois, ils peuvent l'être dans certains contextes, dépendant du handicap, de l'autonomie de la personne, des atteintes de la personne. Puis, il y a des petites actions là, qui peuvent paraître simples. Je vais vous donner quelques exemples dans mon cas. Moi, pour moi, attacher des lacets, attacher mes cheveux, tout ça, là, c'est des petites actions qui sont Des fois, en fait, attacher mes lacets, moi, je suis pas capable. Ça peut avoir l'air super simple, mais au niveau motricité, je suis pas capable de faire l'action d'attacher des boucles. On a essayé de me l'apprendre de mille façons. Ça a jamais été possible. Donc maintenant, je demande à quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Mais c'est sûr que pour le commun des mortels, comme j'aime dire, là, ça a l'air quelque chose d'assez simple, mais je pense que pour les personnes handicapées, il faut pas vraiment considérer ça comme acquis pour tous. Mais je pense qu'il faut, avant tout ça, limiter un petit peu c'est quoi un handicap d'une limitation.
Parce que faire la part des choses.
Exactement, c'est deux choses qui sont tout à fait différentes. Donc, le handicap, c'est vraiment des limitations qui sont permanentes très souvent, puis qu'ils vont limiter les possibilités d'interaction avec un environnement. Que ça soit des limitations intellectuelles, des limitations physiques comme moi personnellement, auditives, tu sais, il y en a de toutes sortes, là, on les passera pas toutes aujourd'hui. Mais pour ce qui est d'une limitation en soi, c'est une incapacité de faire quelque chose qui peut avoir des impacts sur la vie, mais qui n'est pas nécessairement permanent et lié à un handicap quelconque. Donc toi, par exemple, une journée, tu peux avoir une limitation pour te lever debout parce que tu as mal au dos, mais ce ne sera pas nécessairement un handicap.
Exact. Tu as bien raison.
Exactement. Donc, je pense qu'il faut comprendre ça puis vraiment pas confondre ces deux éléments-là parce que c'est hyper important. Puis, la limitation, elle est imposée par une société qui n'est pas bien adaptée aux personnes handicapées. Je pense que ça, c'est l'élément le plus important. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de choses qui sont mal adaptées aux personnes handicapées au quotidien?
En ce moment, je dirais le métro.
Oui!
Oui, entre autres, effectivement. Quoi qu'on essaie d'apporter des améliorations, d'avoir des ascenseurs et tout, alors d'adapter tout ça. Mais effectivement, on a parlé beaucoup aussi de pourquoi pas déjà, en fait, construire des rampes au lieu de construire des escaliers.
Oui.
Tu sais, de l'intégrer déjà. Bon, dans une construction neuve, par exemple, alors, bon, déjà, ça règle tout de suite un problème parce que, bon, nous, les gens qui n'ont pas cette limitation, ce handicap, enfin, bon, ça pose pas de problème d'avoir une rampe.
Exactement, exactement. Moi, je trouve ça totalement. Ça me consterne, en fait, de voir qu'il y a des bâtiments encore aujourd'hui qui sont construits et qu'on ne met pas une rampe, un ascenseur, quelconque système là, pour permettre à tous d'y accéder librement. Moi, pour moi, c'est inconcevable qu'en tant que société, on se dise pas que tout le monde a le droit d'accéder à ce bâtiment et quelconque soit le bâtiment. Le métro, c'est le meilleur exemple. On dit oui qu'il y a des stations adaptées, mais j'ai envie de dire qu'il y a 6 station adaptée.
Oui.
Je pense qu'on est rendu peut-être à 9 là, dans la dernière année, mais ça, c'est quand les ascenseurs fonctionnent. Parce que récemment, j'ai vu quelqu'un que je connais bien qui est arrivé à une station, la station Berry-UQAM, qui est adaptée en temps normal, et l'ascenseur n'était pas fonctionnel. Puis ça, à ce moment-là, cette personne-là a dû faire demi-tour, reprendre le métro et se rendre à une autre station qui, elle, avait un ascenseur pour être capable de sortir de la bouche de métro. Donc, c'est extrêmement problématique de devoir...
Tout à fait, puis tout un détour. Hein?
Exactement, tu dois faire tout un détour, tu es en retard à ton travail, tu es en retard à tes engagements, à tes rendez-vous. C'est tout un problème avec lequel les personnes handicapées doivent conjuguer au quotidien, puis on doit toujours penser aux imprévus qui peuvent arriver. Là, je pense que c'est des fois un petit peu fatigant, là, puis épuisant aussi mentalement.
Oui, c'est ça. Ça peut être aussi simple qu'un seuil de porte aussi.
Oui!
Bon, juste un petit peu là, qui crée bon, un empêchement là, pour entrer dans une pièce. Ça peut être plein de choses comme ça.
Oui!
Très simple. Mais enfin, c'est ça. Je pense que les architectes, enfin, bon, sont de plus en plus sensibilisés, mais il y a beaucoup de chemin à faire parce qu'évidemment, on pense à tous ces bâtiments qui ne sont pas adaptés et qu'il faut adapter. Alors, c'est...
Exact. Puis j'ai envie de rajouter aussi la neige, qui est un obstacle qui n'est pas nécessairement physique, qu'on ne peut pas nécessairement adapter, mais qui vient vraiment compliquer ma vie. Mm-hmm. Moi, au quotidien, quand il y a de la neige, c'est extrêmement difficile de me déplacer à l'extérieur, voire impossible quand il y a certaines quantités de neige, là, de me déplacer seule. Donc ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas contrôler, auxquels on ne peut rien faire, mais auxquels on doit s'adapter toujours. Je pense qu'il faut le mentionner parce que c'est hyper important. Sinon, c'est sûr qu'il y a toutes les ressources qui sont pas adéquates, pas suffisantes pour toutes les personnes handicapées. Je peux parler aussi des parents d'enfants handicapés qui ont souvent besoin de répit, de ressources qui en ont pas, qui ont pas droit à assez d'heures, qui ont pas des rémunérations assez, je dirais, justes pour les gardiennes, qui doivent soit être spécialisées, qui doivent avoir des formations particulières. Pour le moment, les chèques emploi-service qu'on offre, là, qui est un nombre d'heures par enfant qui est alloué pour les enfants à besoins particuliers, est un salaire là, que je qualifierais de crève-faim.
Oui, de pratiquement moyenâgeux, finalement.
Exactement,
ouais.
Qui n'est pas adapté parce que ces enfants-là, on doit leur offrir des soins bien particuliers. Ces gens-là doivent avoir des formations, que ce soit les gavages, au niveau du transfert de l'enfant, tout ça, l'hygiène. Donc, ces enfants-là ont besoin des gens qui sont aptes à prendre soin d'eux puis qui sont disponibles. Donc, ça prend des ressources financières peut-être un peu plus importantes que certains parents n'ont pas. Mais le coût du handicap, j'ai envie de vous dire que j'y reviendrai la semaine prochaine parce que ça sera mon sujet de chronique.
C'est un beau sujet, ça aussi.
Ça sera mon sujet de chronique la semaine prochaine, le coût du handicap en particulier, parce que il faut le penser, ça coûte extrêmement cher être une personne handicapée au quotidien. Puis j'avais envie d'en parler un petit peu plus profondément.
Pour combler tous vos besoins, effectivement. Bon, chaque chose doit pratiquement se monnayer, finalement. Oui.
Ouais.
Les services aussi de support psychologique, à ne pas négliger.
Oui, bien, il n'y en a pas, en fait, j'ai envie de répondre. Il n'y en a pas de disponibles souvent dans les centres de réadaptation. Moi, j'ai fréquenté un centre de réadaptation pendant de très nombreuses années qui desservait une grande partie du territoire de la Montérégie. Puis, il n'y avait pas de psychologue en service pour les personnes handicapées. Il y en avait seulement pour les enfants de 7 ans et moins. Donc, c'est problématique, à mon avis, parce que ça vient avec beaucoup de difficultés, beaucoup de questionnements pour certains parents, pour certains jeunes aussi. C'est difficile de devoir conjuguer avec ça au quotidien si on n'a pas les outils, le caractère pour. Donc, je pense qu'on se doit, en tant que société, de se dire qu'on a besoin d'aide des fois, puis que ça serait bien d'avoir du support qui est non seulement offert, mais adapté.
Exact,
à la
aussi
personne,
à cette situation-là. Et évidemment, tout le marché du travail.
Oui.
Ouais, c'est vrai.
Hein, oui, c'est une grande question, en fait. Ben, moi, je suis chanceuse, je travaille ici, j'ai d'autres emplois. J'ai cette chance-là d'être capable d'occuper un emploi à mes pleines capacités. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Des gens ont certaines limitations plus importantes au quotidien qui nécessitent d'avoir quelqu'un à temps plein avec eux, qui sont pas capables de travailler ou qui a juste personne qui veut les engager. Ça, je trouve ça extrêmement triste parce qu'on le sait, les personnes handicapées sont des personnes aussi performantes que les autres, sinon même,
oui,
j'ai envie
sinon
de dire
plus. Hein,
plus?
Parce que, oui, bien sûr, parce qu'on a tout à prouver. Alors oui, effectivement, oui, on veut faire nos preuves et puis prendre sa place. Et puis bon, on est prêt à travailler plus fort, bien souvent. C'est vrai. Alors, c'est avantageux pour l'employeur aussi. Donc, les sensibiliser à ce niveau-là, mais vraiment, c'est tout un défi, Annelise.
Oui, vraiment. Puis j'ai envie de dire, il faut que ça change. Puis je pense qu'en tant que société, on doit faire l'effort puis donner le mémo pour se dire qu'il est temps qu'on évolue en tant que société puis qu'on intègre les personnes handicapées à leur juste valeur. Là, vraiment.
Ah bon, en fait, je sais que tout au long de l'été, on aura l'occasion d'aborder ces sujets là ici et là quand même, dans le cadre de d'autres chroniques. Bien sûr, vraiment de belles questions. Enfin, puis toi, Anaïs aussi, pas Anaïs, mais Aya, ça a été... on rigole parce que je me trompe souvent de nom. Oui, c'est ça. Mais toi, Aya, c'était un beau sujet aussi. Alors, merci pour vos deux chroniques. Ça a été un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est ça, Aya Jennifer Rando et Anaïs Sabourin.